Bonjour. Merci. J'ai toujours su que la mort de ma grand-mère n'était pas une mort ordinaire. Un mystère l'entoure, un grand flou. Des rumeurs baroques et beaucoup de questions. Une seule certitude, sur l'acte de décès, l'heure n'est pas indiquée. On ne sait quand elle est morte, ni comment. J'avais 1 an et demi, l'âge où on ne comprend pas trop les soucis des parents, mais où l'on échappe pas beaucoup au drame des familles. Dans mon univers de fillette curieuse, la fin mystérieuse de ma grand-mère prit bonne place aux côtés de la religion, l'occupation, l'enfantement. Les choses graves que les adultes n'évoquent qu'à mon couvert et jamais en présence des enfants. L'époque était difficile, on n'en était ni à un mort ni à un mystère près. Le soir, pour m'endormir, ma mère me contait les histoires des ogres et l'amour de sa mère. Avec son nez crochu, ses hardes et son balai, la gentille pendue avait tout d'une sorcière et m'invitait à danser sous la lune. On avait retrouvé son corps pendu à un crochet de la cuisine. Son fils était prostré à ses pieds, tout juste sous son cadavre. Il ne disait rien, pas un mot. Tout le monde les avait entendus se disputer. L'affaire parut suspecte et le resta. Aujourd'hui encore, nul ne sait s'il l'a tué. Aujourd'hui, j'ai l'âge exact qu'avait ma grand-mère en mourant. L'âge qui convient pour ouvrir l'enquête, pour tenter de démêler les destins, pour oser affronter la tragédie familiale. Je veux comprendre la mort qu'on ne m'a jamais expliquée, débrouiller l'intrigue que personne n'a pu élucider. Faute d'éléments concrets qui lui donneraient un éclairage nouveau, et comme je veux savoir, c'est dans ma mémoire que je vais puiser. En fouillant dans mes souvenirs, dans mes rêves, je vais me livrer à la seule investigation possible, la reconstitution psychique qui permet de lever le voile sur le secret dont ma mère et moi avons été habités au point de le répéter, découvrir comment ma grand-mère est morte. Pour cela, il me faut fouiller à même ma chair, sortir de l'ombre mes secrets, visiter les recoins de mon histoire, pour y dénicher les détails gênants, les indices, les traces qui jalonnent 50 années habitées par la mort et visitées par la folie. L'investigation que je vais mener rappelle mes lectures favorites, les intrigues policières. Mais elle ne s'intéressera qu'à mon histoire, n'obtiendra d'aveux et de preuves que de mon passé, de mes amours, de mes peurs et de mes haines. J'ai été éducatrice longtemps et puis psychologue. J'ai passé ma vie à m'occuper d'adolescents en difficulté, de familles douloureuses, d'enfants mal aimés, mal aidés. J'ai passé mon temps à travailler à l'éducation surveillée, puis à la protection judiciaire de la jeunesse. Je suis devenue une des spécialistes de la violence. J'ai beaucoup travaillé la violence, j'ai écrit beaucoup de livres sur la violence. Sur la violence et sur l'art de vivre avec la violence, le recyclage de la violence. Et lorsque j'étais encore à la PJJ, j'ai fait une étude et puis une deuxième sur la réparation et publié un livre sur la réparation. Ce qui m'intriguait, c'était, à partir des théories de Mélanie Klein et dans le quotidien de la vie des jeunes délinquants, comment on pouvait survivre à la violence qui nous habite, survivre à la destruction dont on rêve, à la destruction qui nous fait rager, survivre à la violence de sa famille, à la violence des cités. Du côté de la victime comme du côté du bourreau, du côté du coupable comme du côté de celui qui subissait les outrages, m'a toujours intrigué l'art de survivre au pire. En tant qu'éducatrice et en tant que psychologue, j'étais bien persuadée que tout le monde répète, qui a bu boira, les enfants maltraités feront des parents maltraitants. Je le croyais, comme tout le monde. Je le croyais parce que tous les jours, dans mon exercice professionnel, je rencontrais des femmes battues qui, à peine sorties des griffes d'un mari violent, se trouvaient un autre mec tout aussi maltraitant. Je voyais ces femmes qui avaient quitté un mari alcoolique et qui en épousaient un autre tout aussi alcoolique jusqu'au troisième, qui ne buvait pas quand elle se met avec lui, et puis ensuite qui se met à boire. Enfin bon, vraiment, la répétition, c'était le quotidien de notre travail. Et j'avais bien dans la tête que ce n'était pas comme ça pour tout le monde. J'avais bien ça dans la tête à cause de mon histoire. Je savais que tout le monde ne répète pas. Et j'avais écrit quelques articles sur les alchimistes. C'était certaines assistantes maternelles que j'avais rencontrées dans le placement familial, qui avaient subi des violences sexuelles, qui avaient subi des maltraitances, qui avaient été abandonnées par leurs parents, et qui non seulement ne répétaient rien, mais au contraire, recueillaient des enfants mal aimés, aidaient des enfants bousculés. Je connaissais des femmes qui avaient été violées et qui non seulement ne répétaient aucune violence, mais au contraire aidaient d'autres femmes violées ou meurtries à survivre. Je connaissais des aides-soignantes qui avaient subi des histoires familiales extrêmement douloureuses et qui, dans le quotidien de l'accompagnement des mourants, apportaient à des gens isolés dans les affres de la mort solitaire une vraie présence avec des vrais soins, des mains aimantes, des mains apaisantes. Donc je croyais, comme tout le monde, que tout se répétait, que le pire était toujours à craindre, que ce qu'on avait vécu de plus atroce, on était capable de le répéter, et que si on avait eu de mauvais parents, on deviendrait de mauvais parents, sauf quelques-uns, ces alchimistes que je côtoyais dans mon exercice professionnel. Jusqu'au jour où Boris Cyrulnik, m'ayant appelé pour me demander une conférence sur la résilience, je ne savais pas ce que c'était que la résilience, j'ai découvert que ce que j'appelais l'alchimie, la capacité de transformer en or le plomb ou les misères de notre enfance, eh bien cette capacité-là, nous étions nombreux à l'avoir. Nous sommes tous résilients. Si la résilience est l'art de faire avec notre enfance, nous avons tous cette capacité, tant que nous sommes vivants, nous sommes résilients. Peut-être pas toujours en forme, peut-être pas résilients dans tous les domaines, mais quand la vie l'emporte sur la mort, c'est la résilience qui gagne. Ça m'a d'autant plus intéressée que, à la suite de mon travail sur la réparation, cette énigme qui permet de survivre à la violence, j'étais amenée à faire un travail sur le pardon. Sur le pardon, pas n'importe quel pardon, le pardon filial. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas religieuse, je ne suis qu'une psy avec une formation psychanalytique, je suis psychologue clinicienne. Et ayant toujours travaillé dans des familles douloureuses, violentes, ne connaissant personnellement que la douleur et la violence des familles, j'étais très intriguée, et j'ai toujours été très intriguée par les capacités d'apaisement que pouvait donner le pardon. J'ai toujours été très intriguée par ces gens que j'appelais les pardonneurs, qui étaient capables d'avoir de la tendresse pour leur histoire. Moi, j'ai mis des années avant de pouvoir survivre à mon histoire, avant de pouvoir avoir ce que j'appelle la gratitude du survivant. Au début, je n'en avais que la culpabilité. Pourquoi moi, je m'en étais sortie? Et j'ai rencontré des gens qui m'ont raconté leurs histoires et qui m'ont montré comment, par quel mécanisme psychique, quel était cet art de vivre qui permettait de surmonter le pire. Alors, je vais vous lire certains de leurs témoignages. Je pense que vous y rencontrerez là des morceaux de vos propres histoires. Et vous verrez les liens qui peuvent exister entre le pardon, la résilience et la réparation. Je vais commencer par Anatole. Il a choisi la piste solitaire de l'écriture. Il avait entrepris de coucher son histoire sur le papier pour ses petits-enfants. Ce faisant, il buta sur son incapacité à relater le drame de son père. Son père avait été contraint par sa famille à faire des études d'ingénieur alors qu'il rêvait de faire du théâtre. Surpris de constater qu'un épisode aussi anodin pouvait bloquer sa plume, Anatole se rendit compte que ce qui lui résistait concernait moins son père que lui-même. « En fait, me dit-il, moi aussi, je voulais monter sur les planches quand j'étais jeune. Je l'avais oublié totalement. Je crois que je tiens enfin l'origine du vieux malentendu qui traîne entre mon père et moi et que nous n'avons jamais pu élucider. C'est extraordinaire. J'ai ressenti alors une bouffée de compassion à l'égard de mon vieux père qui m'a bien étonnée. Je suis devenue émue, j'en suis encore tout émue. Je crois que je lui ai pardonné instantanément en comprenant combien je lui en avais voulu de ne pas m'avoir libérée de la contrainte qui avait pesé sur lui. » Alors là, nous avons un témoignage tout à fait étonnant d'un fils qui rencontre le pardon qu'il peut accorder à son père au détour d'une réflexion qu'il se fait sur lui-même, sur la vie, sur la mort, sur la transmission. Il est en train de vouloir transmettre quelque chose à ses petits-enfants. Il s'aperçoit qu'il y a des choses auxquelles il n'avait jamais pensé. Il y a des morceaux de notre vie, des morceaux de notre enfance que nous ne pouvons pas penser. Nous sommes loin de pouvoir les souffrir. Nous ne pouvons même pas nous les raconter. Nous passons notre vie à nous détourner. Si on regardait le chemin de notre vie, il est fait de plein de petits sillons qui s'écartent d'une pensée, d'un souvenir, d'une transmission. Et ce chemin dessine une vie. Et lorsque on arrive à un âge où on a envie de transmettre, il peut nous arriver de se dire « Mais qu'est-ce que j'ai évité ? J'ai passé ma vie à éviter quelque chose. Est-ce que je peux essayer de transmettre peut-être un peu plus de lumière ? Est-ce que j'ai le droit de regarder mon passé ? Est-ce que j'ai le droit de regarder dans mon passé des choses qui ont concerné mes parents, des blessures qu'ils m'ont infligées ? Alors, pour certains, il y a tellement de ressentiments et de haine que toute la vie est cristallisée sur les fautes, sur les griefs, sur le ressentiment. D'autres ne sont pas passés par la haine ni par le reproche. Ils se sont contentés de se détourner. Pardonner à ses parents, c'est s'offrir le luxe d'un peu de lucidité, pouvoir se souvenir de son histoire. J'ai tendance à dire pouvoir se souvenir sans souffrir. Vous voyez bien à la fois le courage et la chance qu'il faut pour pouvoir affronter son histoire sans en avoir trop mal. Que nous dit Irène ? Irène m'a confié qu'elle s'était lancée dans le pèlerinage de Compostelle, sans autre projet que de chercher un petit peu de paix personnelle. À son retour, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait tout le chemin en pensant à sa mère, avec laquelle elle s'était fâchée depuis 5 ans. C'est elle qui parle maintenant. Elle dit « C'est peut-être parce que je viens d'apprendre que ma fille est enceinte. Je croyais me préparer à être grand-mère et en fait, j'ai été confrontée à la question de ma mère. » Elle est arrivée à pardonner à sa mère. Et le pardon est arrivé, elle dit, comme par inadvertance, alors qu'elle avait entrepris une longue conversation avec elle-même. Brigitte, elle a nettoyé sa maison de fond en comble. Elle a tout lessivé, rideaux, parquet, elle a repeint les radiateurs, démonté les étagères, poncé l'escalier. Pendant un mois, on ne la vit que s'activant et tournevis ou une serpillière à la main. Les joues rouges, les cheveux attachés, les dents serrées, elle ne parlait pas. Et elle bricolait ou briquait du matin au soir. Elle voulait être prête pour le mariage de sa fille. Elle voulait être prête à pardonner. Alors elle, vraiment, c'était son objectif. Je veux pardonner à ma mère. Sa mère qui s'éteignait dans une maison de retraite où elle refusait d'aller la voir. Le lendemain de la cérémonie, elle me dit-elle, j'y suis allée et je lui ai dit, je te pardonne. 2 jours après, elle était morte. Je crois qu'elle avait attendu mon pardon pour partir. Je suis heureuse d'avoir pu la libérer, mais il m'a fallu du temps et beaucoup de force. On peut préparer son pardon au cours d'un pèlerinage ou en nettoyant son jardin, comme on peut faire ses comptes familiaux en faisant la vaisselle ou en taillant des rosiers. Certains pleurent à bicyclette ou en jouant de la guitare. Dans le geste, dans l'exercice, en marge de l'occupation principale, quelque chose de très personnel s'expérimente, s'élabore. Pendant que les mains brodent ou tricotent, que les pieds pédalent, dans l'espace intime, dégagé par l'activité, avance un travail de mémoire, un travail de deuil, qui peut mener au pardon. L'esprit prend le temps d'un inventaire. Admonester ses parents, les maudire, mais aussi regretter, comprendre, compatir. Combien de randonnées solitaires débutent avec rage ? Combien de vaisselles sont curées les larmes aux yeux ? Et puis, peu à peu, les mâchoires se desserrent, les larmes sèchent, la vie revient. Le deuil fait son chemin. L'accès au pardon commence à se dégager. Le pardon peut être médité, il peut surgir à l'improviste. Marauder ainsi un pardon au ressentiment, c'est comme faire travailler la jachère, selon la belle expression de Massoud Khan. En effet, aucune magie ne vient ensorceler la victime et ne lui fait oublier ce qu'elle a subi. Les reproches ne s'éteignent pas avec le temps. Le parent criminel ne se transforme pas en un doux vieillard paisible ou en bon ange gardien inoffensif par le charme d'un détour au cimetière. Non, la jachère psychique est une terre labourable qu'on laisse temporairement reposer en ne lui faisant pas porter de récolte. De même, l'esprit de celui qui va vers le pardon en passant par la vaisselle, l'écriture ou la marche est conscient de laisser provisoirement sa rancune après l'avoir acceptée. Et puis il y revient, il repart, il revient, il admet de lâcher prise, il rêve, il se souvient. Avec insistance, il chantonne sa douloureuse petite mélodie personnelle. Rêver. La réparation, Le pardon, la résilience, ça passe par le rêve. Ce rêve qui est notre capacité de survie. Le rêve qui est notre jeu, notre capacité de jouer avec nos sentiments, avec notre passé, avec nos fantasmes, avec nos rêves, avec notre ressentiment, avec nos blessures, avec nos haines, avec nos violences, avec notre espoir. Comme nous rêvons la nuit, nous rêvons le jour. Et nous rêvons les mains occupées, nous rêvons en marchant, nous rêvons en brodant, nous rêvons en laissant courir notre petite chanson. À partir du moment où nous avons des jalons, des rendez-vous avec nous-mêmes, et que par la thérapie ou toute autre méthode, nous avons pu nous lancer dans une espèce de jeu de lucidité, si ce n'est de vérité, pour nous confronter à ces souvenirs insupportables, à ces souvenirs impossibles. Souvent, la thérapie est nécessaire. Mais la thérapie n'est pas suffisante. La thérapie ne permet qu'une chose, être capable de vivre sa vie et de l'améliorer soi-même. C'est la fin de l'été. La lumière qui dort le jardin m'invite à la promenade. Sans attendre, je vais faire un tour dans les bois, faire mon tour. Depuis toujours, j'aime les marches solitaires. Tant que j'habitais en ville, elles me menaient à travers ruelles et boulevards. Maintenant que je vis à la campagne, je me balade sur les petites routes, chemins et sentiers, le nez au vent ou les yeux sur mes chaussures, attentive au bruit des arbres et au pépiement des haies, selon un itinéraire choisi à l'avance. À une variable près, je fais chaque fois le même circuit, calculé pour ne pas avoir à réfléchir, ni à la durée ni au trajet, et pour être certaine que mes pas me ramèneront à la maison, quelle que soit la direction que prendront mes pensées. Car ces balades sont l'occasion de petits rendez-vous intimes, ces petits rendez-vous intimes qui m'aident à vivre. La rêverie qui les accompagne me permet de rester en contact avec mes souvenirs, sans les traîner partout comme des boulets. Me souvenir d'eux, en marchant, me permet de les oublier, en vivant. C'est un peu comme si mon passé pouvait rester dans les rues ou les sentiers, disponible, en retrait, pendant, attendant que j'aille le retrouver, à ma guise. La belle fin d'après-midi ambre les cimes des arbres et les rondeurs des vallons. Je marche, contente, dans la paix des choses. L'autre jour, les chattes m'ont remis sous le nez la lettre de Geneviève et j'y pense vaguement. La tête un peu baissée, le pas vif, je laisse mes pensées flotter. Il me suffit d'évoquer la lettre empoisonnée pour que j'apprécie de respirer l'air vif des bois et ma liberté. Comme d'habitude, aux premières enjambées joyeuses succèdent des pensées bien plus moroses. C'est sans surprise. Je sais que je viens user mes bottes pour penser à ma vie. Mes associations me mènent de Geneviève à Marie, de ma mère à ma grand-mère. Je tente d'établir des correspondances entre leurs deux morts. Je note que ma mère est morte 4 ans exactement après ma tentative de suicide. Janvier, février, les mois blancs qu'elle détestait, appelant le mois de février le mois des morts et proclamant « c'est le plus long mois de l'année ». Effectivement, c'est le mois de la mort de ses parents, de son père, de sa mère, celui de sa naissance. On commençait assez mal l'année dans ma famille. La grand-mère, sa fille, sa petite-fille, 3 femmes d'une même lignée, 3 morts suspectes, 3 morts violentes, 3 énigmes, la corde, le rasoir, le poison. Nous avons le sens du tragique dans la famille, du tragique, du secret, de la répétition et de l'aveuglement. Moi, je suis née d'une longue lignée de folles, 3 générations de psychotiques pour faire une psychologue. Je pense que beaucoup dans la salle se reconnaîtront. Je ne dis pas que tous les psys sont fous. Non. Mais la question n'est pas sans les intéresser, disons. Moi, j'ai vécu avec la mort de ma grand-mère, secrète, un secret de famille, une organisation de secrets tout autour d'un impensable. J'ai vécu avec l'alcoolisme de ma mère et l'organisation du secret, de cet impensable qui est l'alcool. On ne disait pas qu'une mère buvait. On ne disait pas, d'ailleurs le mot alcoolique ne fait pas partie du vocabulaire de mon enfance et de mon adolescence. Ça aurait été ivrogne, ce n'est pas mieux. Il y avait tout un secret autour de ça, c'était pas pensable. Et ça a été, pour moi, il a fallu des années d'analyse pour que je puisse le penser, le dire. Et pourtant, lorsque j'étais éducatrice, J'étais la plus... Et lorsque j'étais chef de service, je me souviens, j'étais à l'époque en analyse, et j'avais un don particulier que n'avait aucun de mes collègues. J'étais toujours celle qui savait quel était le degré d'alcoolisation des mères de famille. Tout le monde me trouvait d'une grande acuité clinique. Moi, je savais, je devinais. Et j'aurais été incapable de dire d'où me venait cette science. J'ai appris effectivement à comprendre ces illuminations qui nous viennent de notre histoire personnelle. Et quand j'entends, j'utilise le mot illumination, c'est pour qu'on entende bien la charge d'aveuglement qu'il peut y avoir. Lorsqu'on est totalement concerné, on devine. Lorsqu'on est totalement concerné, on se trompe. On sait, mais on ne sait jamais rien d'autre que ce qu'on sait sur soi. Lorsqu'on va un petit peu plus loin dans le travail analytique, dans le travail clinique, on peut effectivement utiliser cet espace personnel pour ouvrir un champ de communication, un champ d'empathie, un champ transférentiel qui va permettre à l'autre de faire un chemin, le chemin qui lui permettra d'accepter, de reconnaître ses vérités, de les broder, de les rêver, d'en faire des vaisselles, d'en faire des marches solitaires ou des nettoyages forcenés. User ces douleurs dans un quotidien de rêverie, user ces douleurs dans le don, dans la créativité, dans l'échange. Le premier livre que j'ai écrit s'appelait « De la dette au don ». Oh, j'étais loin d'être capable de raconter l'histoire de ma grand-mère. J'étais pleinement psychologue clinicienne, chargée de mission à la protection judiciaire de la jeunesse. J'ai en face de moi Paul, tu étais mon directeur, Paul, à l'époque, lorsque j'ai écrit « De la dette au don ». Et je savais que, étant donné ma position officielle, je ne pouvais pas me lancer dans l'énigme qui était la mienne. Je ne pouvais pas non plus dire que ma mère picolait sec, qu'elle était violente et folle, que mon père l'avait laissé venir dans mon lit, que nous étions une famille d'une grande violence et une famille particulièrement pathogène. Ça s'appelait quand même « De la dette au don ». Donc je travaillais sur la réparation, et cette énigme de la résilience, qui n'avait pas encore de nom pour moi, je la travaillais sur cette idée que ce que nous avons hérité, que ce soit en positif ou en négatif, si nous voulons ne pas être dans la soumission ou dans l'emprise parentale, il nous faut pouvoir transformer cet héritage de bonheur ou cet héritage de malheur, le transformer dans le don, dans l'échange, dans la solidarité. Le don, c'est aussi la créativité. La créativité, ce n'est pas simplement créer, c'est créer donner, créer offrir. Si vous faites la tarte aux pommes et que vous offrez votre gâteau, vous avez fait un acte de création et un acte de don. Créer offrir, c'est aussi écrire, bien sûr, c'est peindre, c'est jardiner, c'est décorer sa maison, c'est offrir un espace de bonheur pour les autres, c'est enchanter le monde. Faire en sorte qu'un sourire, un échange, fasse que quelques secondes, quelques instants de la vie soient un petit peu moins cons, moins durement matériels, moins marchands. Donc, enchanter le monde, c'est occuper cet espace transitionnel que les psys connaissent, que Winnicott nous a appris à découvrir, et ce qui est l'espace de la résilience, qui est l'espace du pardon, qui est l'espace de la réparation. Lorsque j'ai pu me libérer, en prenant une retraite anticipée de ces charges professionnelles, je cherchais une maison, j'ai trouvé la maison, j'ai même trouvé l'homme qui allait avec. Il faut dire que j'ai eu de la chance d'en trouver au moins un avec qui je pouvais vivre. Et je me suis installée et j'ai commencé à écrire mon livre. J'étais libre. Et j'ai réalisé, en terminant mon livre, que j'avais l'âge exact qu'avait ma grand-mère lorsqu'on l'a retrouvée pendue. C'est-à-dire que cette plénitude de liberté qui avait demandé une sérieuse organisation, pouvoir prendre ma retraite anticipée, pouvoir trouver un mec, pouvoir trouver une maison, pouvoir m'installer pour écrire et écrire un livre très personnel, parce qu'il y a peu de psys qui racontent l'alcoolisme ou la violence de leurs parents. Cet acte de liberté était en fait un rendez-vous symbolique. J'avais rendez-vous avec ma grand-mère, avec cette pendue qui avait habité toute mon enfance. J'avais un livre à lui écrire, j'avais un cadeau à lui faire, j'avais un don à faire à ces deux femmes-là, ma mère et ma grand-mère, et c'était leur offrir et offrir à tous ceux qui ont lu Pardonner à ses parents et à tous ceux qui m'ont écrit et à tous ceux qui me lisent, parce que réellement, écrire et être lu, c'est ouvrir un espace de partage avec des gens qu'on ne connaît pas, avec des gens que parfois on rencontre. Et c'est vraiment ouvrir un espace dans lequel le lecteur et l'auteur, nous sommes vraiment à égalité. Combien de gens m'ont écrit des lettres pour me dire ce qu'ils avaient lu dans mes livres, des choses que je n'ai jamais écrites. Mais probablement je les avais pensées. En tout cas, maintenant que j'ai reçu ces lettres, je les pense. Parce que vraiment, lorsqu'on lit un livre créativement, et je crois qu'on peut lire créativement comme on peut regarder la télé créativement, on peut tout faire de façon passive, se laisser noyer, subjuguer, aliéner, on peut être dans l'emprise, et on peut être vivant. On peut être vivant dans l'échange, vivant dans la créativité, vivant dans la lecture. Et chaque fois qu'on est dans cette acte de lecture où on est vraiment un lisant, on crée un espace et cet espace nous enrichit et nous nourrit. Et j'ai donc eu besoin d'écrire à la fois à tous les gens qui m'ont écrit leurs lettres, et j'ai eu besoin aussi d'écrire à ma mère et ma grand-mère, donc ces deux femmes folles, que je m'en étais sortie, leur écrire un livre apaisé, et j'ai vraiment plus de haine. Mais je crois que j'ai tellement haï. J'ai haï ma mère. Il y a un chapitre de Il m'a tué qui s'appelle Haïr sa mère à en crever. J'ai dû haïr ma mère. Alors ça, c'est un des chemins de résilience. Et paradoxalement, c'est un des chemins du pardon. Et c'est un des chemins de réparation. Ce qui m'a donné cette lumière-là pour comprendre que la résilience, donc l'apaisement, pouvait passer par la pire des choses, qui est la haine, c'est parce que je l'ai vraiment vécu. J'étais une enfant terrorisée, moi, terrorisée par une mère folle, qui elle-même était vampirisée par une mère pendue. Vous voyez, c'était pas sympa, sympa comme existence, hein. Une mère folle qui venait dans mon lit, enfin bon. Il m'a tué, est étudié à l'université de Strasbourg dans le laboratoire de psychologie de la famille, de psychanalyse de la famille, comme un des rares bouquins qui parle de l'inceste maternel. Il y a une histoire d'anthropophagie qui est une forme première de l'inceste, le moins sophistiqué qui soit. On se les bouffe les marmots. Et une histoire d'inceste maternel. Donc c'est une situation difficile. C'est difficile de se séparer de sa mère lorsqu'elle a besoin de... Elle avait besoin de ma vie pour vivre. Donc c'était très dur de me séparer d'elle. Je n'ai pu le faire que par la violence, par la haine. Haïr ma mère pour qu'elle ne me dévore pas. Alors vous voyez un petit peu la culpabilité ensuite. Et donc enfin pouvoir trouver l'apaisement. Mais elle est morte avant que j'ai pu trouver la paix. Et c'est parce qu'elle est morte que j'ai pu trouver la paix. Je n'aurais pas pu être vivante en même temps qu'elle. Ça fait partie de ces positions folles dans une histoire de famille. Et là, on est dans l'inceste, où il n'y a pas la place pour deux personnes de deux générations différentes. Parce que l'interdit générationnel, le seuil générationnel, n'est pas inscrit dans la structure familiale. J'ai eu la chance que ce soit elle qui meure, donc j'ai survécu, plutôt mal en point, avec une charge de honte parce qu'elle était folle et de culpabilité parce que je l'avais haïe. Et j'ai vécu avec ça, et puis ensuite, bien sûr, j'ai pu faire une psychanalyse puisque j'ai raté mon suicide, et j'ai pu... survivre à tout ça en allant voir l'autre famille, en travaillant comme éducatrice et comme psy avec des gens qui étaient tout aussi malheureux que moi. D'ailleurs, je me suis construit une image de la famille absolument épouvantable. Moi, j'étais persuadée que dans toutes les familles, il y avait des coups, de la violence. Enfin, comme je travaillais à la protection judiciaire de la jeunesse, je risquais pas d'être contredite. Et puis, je suis partie à l'Institut de l'enfance et de la famille. J'ai réalisé que je vivais dans un univers très clos. Je vivais dans cet univers dont Boris Cyrulnik dit qu'il y a 78% ou 80% de personnes qui ne répètent pas, et il y a à peu près 20% de personnes qui répètent. Et moi, j'étais à fond dans les 20% de gens qui répètent la douleur, qui sont ligotés dans la honte, la culpabilité, la haine, qui n'en sortent pas des coups et de la violence, tellement ils sont persuadés qu'ils ne peuvent pas construire du beau avec les monstruosités qu'ils ont vécues. Donc, depuis que j'ai réalisé que c'était pas vrai et que je n'étais pas la seule et qu'il y avait quand même des familles à peu près sereines, à peu près heureuses, enfin, il y a quand même des gens qui vont un petit peu bien, pas tous les jours, mais il y a quand même des familles qui sont structurées avec le respect de l'interdit de l'inceste, le respect du clivage générationnel, dans lequel les enfants sont considérés comme des enfants et qu'on n'essaie pas de leur bouffer la vie pour pouvoir se nourrir. C'est pour ça que j'ai aussi voulu écrire pour lutter contre cette répétition, pour lutter contre ces discours de mort qu'on entend partout sur la violence des ados. C'est pour ça que j'ai écrit un bouquin sur la violence des ados. Ce n'est pas vrai que tous les ados sont hyper violents. Il ne faut pas croire ce qu'on nous dit à la télé et à la radio. Ce n'est pas vrai qu'il y a une grosse augmentation de la délinquance des mineurs. Lorsqu'on nous parle de l'augmentation des chiffres de la délinquance et de la criminalité, on nous parle surtout de l'augmentation des vols de portables. Même si on nous met comme image à la radio, vous voyez, ça passe pas. Hein. Donc j'écris des bouquins sur la violence, sur la réparation, sur le pardon, pour faire circuler ces idées, que on peut vraiment, on est tous des alchimistes, on peut tous survivre. Même lorsqu'on est dépressif, même lorsque la vie est noire, même lorsque on accumule les difficultés, notre capacité à donner, notre capacité à créer, notre capacité à jouer est plus forte que la mort. Alors c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de résilients, c'est-à-dire de gens qui ont eu des grosses épreuves à traverser. On les rencontre beaucoup dans les métiers du social, dans les métiers du soin, dans les métiers artistiques. D'en pardonner à ses parents, j'ai recueilli beaucoup, beaucoup de témoignages d'éducateurs, de psychologues, de psychiatres, de peintres. Je me souviens de cette femme qui peignait au couteau. Alors, peindre au couteau, je ne savais pas que ça existait, je trouvais ça très drôle, peindre au couteau. Et lorsqu'on m'avait dit qu'elle faisait des toiles rouges, j'ai voulu absolument la rencontrer. Alors effectivement, elle peignait avec des espèces de petites truelles, je ne connais pas moi, mais alors c'était des grands tableaux rouges. Et avec des grands gestes, comme ça, au couteau. Et elle me disait qu'elle ne pouvait pas pardonner à sa mère, qu'elle était habitée par une violence contre sa mère. Et c'était une situation extrêmement dure à vivre, avec une mère vivante, une mère qui nuit encore, une mère qui continuait à essayer de la... Quelqu'un de compatissant. C'est vraiment très gentil. Merci. Mais sa façon de peindre, cette énergie, cette violence, mais en même temps cet art, cette créativité qu'elle mettait dans la peinture, lui permettait de survivre au quotidien de ce qu'elle éprouvait et de ce qu'elle vivait avec sa mère. Parce que pardonner à ses parents, ben c'est un long chemin, c'est le chemin d'une vie, il n'est jamais trop tard, ça veut dire qu'il faut prendre son temps, ça veut dire qu'on n'est pas obligé. C'est le chemin d'une vie, ce n'est pas le but d'une vie. Le but d'une vie, c'est de la vivre. Pardonner à ses parents peut permettre de se souvenir sans souffrir, peut nous permettre aussi d'accepter d'être l'enfant de nos parents. Ça a l'air d'être véniel ou banal, mais pouvoir supporter d'être l'enfant de ces parents-là, pouvoir accepter de dépasser la honte d'avoir été le fils ou la fille de celui-là qui était collaborateur, de celui-là qui était violeur, de celle-là qui était prostituée ou alcoolique. Ce sont des toutes petites choses qui peuvent sembler anodines à ceux qui ne sont pas concernés. Mais si votre grand-mère s'est trouvée enceinte avant d'être mariée, et si elle en a perdu la joie de vivre, et si elle a pourri la vie de ses enfants parce que la honte qu'elle a ressentie dans son village était trop forte pour ses épaules, même si votre fille est mère-fille, comme on dit aujourd'hui, mère célibataire, en pleine joie et en plein épanouissement, vous pouvez comprendre que selon les époques, selon les milieux, selon les histoires, il y a des hontes qui peuvent sembler absolument anodines, mais qui sont importables, insupportables. Donc, pardonner à ses parents, c'est accepter aussi qu'ils aient été détruits par des événements de leur vie, par des événements des guerres, par des événements de la morale ambiante, par le contrôle social, qu'ils aient été détruits par des choses qui nous semblent impensables, soit trop anodines, soit trop monstrueuses. Donc, il n'est jamais trop tard pour pardonner à ses parents. Ça veut dire que la question de savoir comment être l'enfant adulte de ses parents est vraiment la question de tout adulte. On sait comment être l'enfant infantile de nos parents. On sait comment on est capable de se taire devant notre père ou notre mère. On est toujours leur enfant, même s'ils ont 95 ans. Vous savez, Freud s'est senti libéré quand sa mère est morte. Il a dit dans une lettre à Fliss, comme c'est bizarre, il adorait sa mère. Il adorait sa mère qu'il adorait. Il a dit, c'est bizarre, comme j'ai une espèce de sentiment de liberté à l'enterrement de ma mère, comme si enfin je pouvais vivre ma vie. Il avait 75 ans. Il avait 75 ans. Elle avait mis du temps. Hein. Alors, rendez compte, si Freud lui-même, bon, j'avais bien le droit, moi aussi, de mettre du temps avant de pouvoir accepter d'avoir eu une mère sur le dos. Bon, moi, j'ai eu de la chance, ma mère n'a pas attendu que j'aie 75 ans. Je n'aurais jamais eu 75 ans si elle était restée vivante. C'est comme ma peintre. Il y a des parents qui sont tellement nocifs qu'on ne peut pas vivre à côté d'eux. On peut vivre loin, on peut survivre. C'est pourquoi pardonner à ses parents, c'est un chemin magnifique que je dois beaucoup à tous ceux qui m'ont raconté leur histoire, et il y en a dans la salle. Mais pardonner à ses parents, depuis, j'aurais pu en écrire un autre qui serait pardonner à ses morts. Parce que j'ai réalisé que beaucoup de morts continuent à nous pourrir la vie. Beaucoup de morts hantent plus nos cauchemars que nous hantons leur cimetière. Et lorsqu'on arrive à pouvoir pardonner à nos morts, eh bien là, vraiment, on dort mieux. Pardonner à des gens qui ne peuvent plus nuire, pardonner à des parents qui sont dans leur mort, dans leur histoire, accepter de ne jamais les changer, accepter qu'ils soient comme ils sont, avec les douleurs de leurs époques, avec leurs erreurs, voire avec leurs fautes, et pouvoir faire ce véritable travail de séparation. Parce que s'il y a bien une définition du pardon au niveau psychique, c'est un travail de séparation. Pardonner à ses parents, c'est se séparer d'eux. C'est abandonner tout espoir de les changer, et c'est quand même accepter d'être dans cette position généalogique qui est celle de la filiation. Voilà. Nous avons 10 minutes. Est-ce que vous voulez me poser une ou deux questions ? Ensuite, il faudra que nous nous arrêtions parce que j'ai rendez-vous avec la radio à Ligre à 4h15. Donc, je serai obligée de partir vite. Mais je vous retrouverai au stand, bien sûr, si vous le souhaitez.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous remercie de votre intervention. Je voulais quand même vous demander, parce que bon, je suis en train de travailler sur Winnicott, tout ce qui touche à la création. Et je voulais savoir un petit peu, j'ai l'impression, enfin, dans ce que vous dites, moi, pour moi, il y a quelque chose qui me manque au niveau d'un baillon. C'est-à-dire que quand vous dites quelqu'un qui utilise la marche, le dessin, d'accord. Mais je me demande, parce que la créativité chez Winnicott, il dit c'est quelque chose où on donne un sens à la vie, où on pense que la vie vaut la peine d'être vécue. Et ça, c'est-à-dire qu'on peut commencer à utiliser l'objet, c'est-à-dire être dans la créativité, quand il y a eu relation à l'objet. Alors pour lui, relation à l'objet, à la mère, c'est pouvoir être soi. Et moi, je me demande si on peut aussi dessiner, prendre des photos et tout ça, et finalement continuer à souffrir. Et c'est-à-dire ne pas être dans ce que lui nomme la créativité, cette créativité dont je pense, dont vous parlez, qui n'est pas construire un objet, enfin, au sens commun, quoi. Vraiment qui est autre chose.
Oh oui, attendez, il y a plus que ça, vous avez tout à fait raison.
J'ai pas senti, par exemple, dans celle qui marchait, là.
Mais il faut en passer par la destruction. Oui. Ce que dit Winnicott, c'est que l'objet est recréé et que, alors bon, c'était dans un exposé aussi court, j'ai dû être rapide, mais d'en pardonner à ses parents, j'ai présenté les étapes du pardon, les temps, hein, qui ne sont pas des temps chronologiques, hein, qui sont des temps psychiques, donc des temps logiques qui peuvent être simultanés et tout ça, mais le premier temps après le déni, parce qu'il y a un temps préalable au pardon, c'est le déni du reproche. Celui qui est persuadé n'avoir jamais souffert n'a rien à réparer. Celui qui est persuadé n'avoir jamais fait de mal n'a rien à réparer. Et Et beaucoup de vies se construisent sur le déni. Et après tout, pourquoi pas? Quand le déni permet de vivre, c'est bien comme ça. Lorsque le déni, lorsqu'on s'aperçoit qu'après avoir dénié, c'est-à-dire se dire, bon, moi j'ai jamais souffert de mon père, j'ai jamais souffert de ma mère, et puis tout d'un coup s'apercevoir que les symptômes commencent à nous pourrir la vie, c'est intéressant quand même d'aller y voir. Alors, mais une fois qu'on a passé cette étape de déni, toute personne qui s'engage dans un chemin de pardon passera par ce que j'appelle le temps du réquisitoire. Le temps du réquisitoire, c'est un temps de violence et de destruction. C'est nommer la haine, nommer les griefs, nommer les reproches. Et c'est ce temps qui met en rencontre avec soi-même. La réparation, c'est la même chose. Quand la réparation n'est pas transitionnelle, elle est maniaque, elle est mécanique. Le temps du pardon, il faut qu'il passe par soi-même. Se rencontrer les sombres figures de soi, rencontrer la peur de sa mère, rencontrer le dégoût pour son père, rencontrer toutes ces petites choses qu'on ne veut pas savoir. Et on les rencontre dans ce temps du réquisitoire, qui est un temps de soi à soi. Il ne s'agit pas d'aller voir son père en lui disant tel jour à telle heure tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Il s'agit de se confronter à son image paternelle, à ses souvenirs de son père, à ses parents en soi. Et c'est là-dedans qu'on fait ce chemin qui va nous brancher sur une destruction par le désespoir, par le chagrin, par la peine. Ensuite, il y a ce que j'ai appelé le temps des inventaires, qui est un temps de la compassion, un temps de l'échange, un temps de compréhension. Dans le premier temps, le réquisitoire, on est dans la dureté de l'émotionnel. On est dans la douleur, on est dans la violence. Dans le deuxième temps, on commence à comprendre et à nouveau le chagrin revient. On resitue dans le contexte. Tous les gens qui m'ont raconté leur histoire m'ont raconté comment, il y a des moments où ils avaient compris que l'histoire de leur père ou de leur mère était tellement serrée à la gorge dans une situation inextricable qu'ils n'avaient pas pu faire autrement qu'être violent, injuste. Vous voyez ? Donc la créativité, alors là vous avez totalement raison, la créativité c'est passer par l'intérieur de sa détresse. Utiliser la force de vérité que nous donne la souffrance. J'ai fait une grande différence dans pardonner à ses parents entre la douleur et la souffrance. La douleur n'a pas de mots. La douleur est silence. La douleur est cri. La souffrance parle. La souffrance s'adresse à quelqu'un. La souffrance pleure. Dans Il m'a tué, j'ai raconté comment moi j'étais une enfant qui ne pleurait jamais, qui ne disait rien. Je ne pouvais même pas dire le mot « maman ». Il a fallu 4 années d'analyse avant que je puisse prononcer, vous voyez, la 4e année sur le divan, avant que je puisse prononcer le mot « maman », et je ne l'ai prononcé que sur le divan. Il a fallu de longues années après pour que je puisse le prononcer. C'était impossible. La douleur empêche, y compris pour une petite fille de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de pouvoir prononcer le mot qui la mettrait en fragilité. Donc la douleur est d'une violence absolue. La souffrance commence à pouvoir s'exprimer. Pouvoir prononcer le mot « maman », il faut ne pas avoir peur de la violence de cette femme-là. Pouvoir pleurer, c'est pouvoir penser que quelqu'un a un mouchoir, que quelqu'un va venir vous apporter un verre d'eau. Toutes ces choses-là ne sont pas pensables lorsqu'on est dans le trou de la douleur. Donc, le chemin du pardon est un chemin qui va passer vers la souffrance, vers la créativité. La créativité est souffrance. Elle est transformation par l'esprit, par la pensée, par l'émotion de ces morceaux durs qui sont nos morceaux de douleur. Et c'est effectivement cette créativité dont parle Winnicott qui occupe un espace intermédiaire. On n'est ni à l'intérieur de soi, ni dans les autres. On est dans un espace qui occupe de l'intérieur de soi et de l'autre. C'est un espace comme l'espace transitionnel, comme le doudou, c'est-à-dire c'est un espace à l'intérieur d'un objet, c'est pas l'objet. Et lorsqu'on chantonne, ou lorsqu'on peint, ou lorsqu'on dessine, on peut le faire de façon mécanique en étant absent à soi-même, et on peut l'habiter de soi-même. Et lorsqu'on l'habite de soi-même, on nourrit notre capacité à créer un monde. Il y a des mondes à l'intérieur des mondes, comme il y a du temps à l'intérieur du temps. Et lorsqu'on habite ce monde, c'est un monde à l'intérieur duquel on peut inviter d'autres personnes. On les invite à jouer avec nous. Et à ce moment-là, notre univers s'enrichit et c'est le chemin du pardon que j'avais un peu réduit, comme vous avez eu raison de me le souligner.
Voilà. Je suis très émue par ce que vous racontez, parce que je peux dire qu'en parlant des souvenirs des morts, je me suis réconciliée avec ma sœur, parce que j'avais un grand différend depuis plus de 15 ans avec elle. Je l'avais compris et je voulais lui faire dire « je te comprends », qu'elle me comprenne. J'ai jamais pu lui faire dire. Je l'avais compris. Elle était restée sur un grand différend important. Et quand j'ai su il y a 2-3 ans là qu'elle devait partir, qu'elle devait nous quitter puis qu'elle allait mourir, c'était au moment des fêtes, j'avais dit à mon fils, il faut que tu m'emmènes, il faut que j'y aille. J'avais ce besoin d'aller. Et c'est vrai que quand je l'ai vue, elle était sur son lit à l'hôpital. C'est vrai qu'en fonction de tout ce qu'elle avait, je savais que je ne la reverrais pas. Je lui ai dit, écoute, je t'avais promis que je redescendrais un jour chez toi, elle habitait dans les Pyrénées. Tu vois, je suis revenue, je reviendrai l'été prochain. Il est évident que je savais que je ne la reverrais pas. Nous n'avons pas parlé du différent. Et j'ai fait le deuil de ma sœur. Alors je crois qu'il ne faut pas attendre de pardonner. Il ne faut pas attendre, il peut être trop tard après.
c'est bien, c'est un beau témoignage. Je pense qu'il va falloir que nous nous arrêtions. Donc nous nous arrêtons sur ce témoignage et je vous en remercie.
Merci beaucoup.
Mm-hmm.